Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Permettez-moi ce dimanche de regarder avec vous l'oraison, ce qu'on appelle la collecte de la messe de ce huitième dimanche après la Pentecôte. Ces collectes des dimanches après la Pentecôte sont particulièrement belles et elles sont riches d'enseignements. Elles nous disent tout ce qu'il faut demander à Dieu et comment il faut le demander. Elles contiennent de vrais trésors, de doctrine, de spiritualité. Ce sont de magnifiques exemples de prière. Donc ça vaut vraiment la peine de les fréquenter. Nous nous plaignons souvent de ne pas savoir prier. Nous ne savons pas quoi demander au bon Dieu dans la prière et puis comment s'y prendre. Eh bien, nous pouvons nous inspirer des prières du missel. Elles constituent une véritable école de prière. Ordinairement, ces oraisons se compose de quatre petites parties. Alors, ce n'est pas absolument invariable, le schéma peut varier, mais il y a d'abord une adresse. On s'adresse à Dieu quand on prie, et la liturgie ne manque pas de faire ainsi. Il faut se recueillir au début, et puis dire à Dieu que c'est à lui qu'on s'adresse. Ensuite, la prière indique le titre ou le motif, le bienfait, la vertu, en fonction de laquelle on invoque le bon Dieu, pour laquelle on invoque le bon Dieu. Et le plus souvent, c'est au moyen d'une petite proposition relative. Par exemple, Dieu qui est infiniment miséricordieux, ou Dieu qui est tout-puissant. Alors, ça peut être plus ou moins développé. Mais pour montrer le titre sous lequel on va invoquer le bon Dieu. On honore tout spécialement le bon Dieu sous un titre spécial. Ensuite, en troisième partie, vient la demande proprement dite. C'est le cœur même de l'oraison, de la collecte. C'est le plus important. Et puis enfin, la prière indique le but, la raison pour laquelle on adresse cette demande. Ces demandes ne sont pas adressées à Dieu de manière indifférente. Il y a un but, il y a une raison, il y a une conséquence. Alors, la collecte va souligner ça, souvent au moyen d'une petite proposition finale ou consécutive. Et puis, l'oraison se termine toujours par la mention de la médiation de notre Seigneur Jésus-Christ. Per Dominum Nostrum, Jesum Christum, etc. C'est toujours par notre Seigneur que l'Église prie le Père, selon ce que Jésus lui-même a prescrit à ses apôtres. Vous vous souvenez, dans le discours après la scène, notre Seigneur a dit à ses apôtres, « En vérité, je vous le dis, tout ce que vous demanderez à mon Père en mon nom, il vous le donnera. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez. » Il faut donc prier au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Par notre Seigneur Jésus-Christ, il est l'unique médiateur. C'est par lui qu'on peut atteindre le bon Dieu. Alors, voici un exemple. C'est l'exemple de l'oraison, de la collecte du Corpus Christi, de la fête Dieu. Vous la connaissez, on la récite à chaque salut du Saint-Sacrement. Voici ce qu'on demande. Vous retrouvez le petit plan que nous venons de donner. Ô Dieu, voyons, on s'adresse à Dieu. Qui nous avait laissé dans ce sacrement admirable le mémorial de votre passion. Voilà la petite proposition relative qui indique le titre, le bienfait sous lequel on va invoquer le bon Dieu. Il nous a légué ce sacrement admirable de la messe, de la communion, qui est le mémorial de sa passion. Ensuite, la demande, accordez-nous, nous vous en prions, de vénérer les saints mystères de votre corps et de votre sang. Qu'on vénère ces mystères, c'est-à-dire qu'on cherche à mieux les pénétrer, à mieux les connaître, et puis surtout à adorer, à remercier le bon Dieu pour la Sainte Messe, pour la Sainte Communion. Le bon Dieu ne nous a pas laissés orphelins, c'est quelque chose de merveilleux. Il faut creuser tout ça. Et puis la proposition consécutive ou finale qui termine la petite oraison et qui nous dit la raison pour laquelle on a demandé cela. De telle sorte que nous ressentions toujours en nous le fruit de votre rédemption. Si le bon Dieu nous a laissé tout ça, c'est pour qu'on en profite, qu'on goûte les effets de notre rédemption qui nous viennent notamment par la messe, par les sacrements et spécialement par le sacrement de l'Eucharistie. Et puis la conclusion, par notre Seigneur Jésus-Christ, etc. Alors regardons la belle oraison de ce dimanche, de ce huitième dimanche après la Pentecôte. Elle est particulièrement belle et cherchons à bien profiter de son enseignement. Commençons par la lire. Je vous la lis en latin. Le latin a cet avantage qu'il est dense et précis. Et il y a donc des richesses dans les mots latins que le français ne peut pas rendre. le français est obligé de faire appel à des circonlocutions, ça complique beaucoup les choses. Alors, je vous donne la traduction. « L'agire nobis quesumus domine. Accordez-nous, Seigneur, nous vous le demandons. » Quesumus, on le demande. Alors, qu'est-ce que le bon Dieu doit nous accorder? Qu'est-ce qu'on lui demande? « Semper spiritum cogitandi quae recta sunt propitius et agendi. » Nous demandons l'inspiration de toujours penser ce qui est droit et on demande à la bonté du bon Dieu de le faire, non seulement de le penser, mais de le faire. Toujours penser et faire ce qui est droit. Voilà l'objet de cette prière, voilà la demande. Et puis enfin, la proposition finale, pourquoi est-ce qu'on demande ça? Ut qui sine te esse non possumus, secundum te vivere valeamus. Pour que, afin que nous qui ne pouvons exister sans vous, sans le bon Dieu, on ne peut pas exister, nous puissions aussi ne vivre que selon vous, selon votre volonté. Voilà le but pour lequel on demande de penser droit et d'agir droit. Vous aurez remarqué que, ici, dans cette oraison d'aujourd'hui, la demande vient tout de suite. Je vous ai dit, il y a d'abord une petite adresse. L'adresse se trouve là, mais elle vient comme une incise après deux mots. L'argire nobis, quesumus domine. Accordez-nous, Seigneur, nous vous le demandons. Nous le demandons à votre bonté. Donc, il y a bien cette petite proposition qui n'est pas ici une proposition relative, qui se ramène à un seul mot, le mot propitius. C'est la bienveillance du bon Dieu qu'on invoque. C'est parce que le bon Dieu est bienveillant, favorable, propice. C'est la raison pour laquelle on peut tout lui demander. Et ce qu'on lui demande ici, dans cette oraison, est particulièrement important. On lui demande de toujours penser ce qui est droit, quae recta sunt, et de le faire. Pas seulement de le penser, mais de le faire. Alors reprenons, si vous voulez, les mots de cette oraison, les uns après les autres, pour bien en saisir le sens et la portée. Il y a une portée qui est très, très importante. D'abord, le premier mot, largirer, accorder. On demande au bon Dieu de nous donner, de nous accorder quelque chose. Le mot largior en latin signifie pas simplement donner un peu en général, comme ça. C'est donner largement, donner généreusement, abondamment, surabondamment même. D'ailleurs, le mot largesse, ça vient de là. Largirer, largesse, c'est le même mot. Quand Dieu donne, il donne abondamment. Dieu n'est pas chiche dans ses dons, jamais. Et ce qu'on lui demande ici, c'est donc une grâce. Et quand on demande des grâces avec ferveur, avec foi, avec persévérance, le bon Dieu ne manque pas de les donner. Et il les donne surabondamment. Parce que ce que nous demandons ici, ça ne dépend pas de nous. Nous ne pouvons pas nous-mêmes nous donner à nous-mêmes cette facilité, cette capacité de penser droit et d'agir droitement, surtout quand il s'agit de réalités surnaturelles. C'est hors de notre portée, ça. C'est hors de nos forces. On a besoin vraiment de grâce, et d'une grâce qui n'est pas méritée. Le bon Dieu ne va pas nous accorder ça parce qu'on le mérite, parce qu'on est des gens bien, parce qu'on est des gens qui pensons bien. Pas ça du tout. Le bon Dieu nous le donne gratuitement, parce qu'il nous aime et parce qu'il veut notre sainteté, plus encore que nous. Alors c'est pour ça qu'il faut demander, vous voyez, la prière est très importante. Toutes ces réalités qu'on demande au bon Dieu, nous ne pouvons pas nous les donner à nous-mêmes, il faut être persuadé de ça. Nous sommes incapables par nous-mêmes de toujours penser et agir droitement, avec droiture. Spécialement dans l'ordre surnaturel, c'est évident. Dans l'ordre surnaturel, tout ce que nous connaissons, tout ce que nous aimons, c'est parce que le bon Dieu nous donne de le connaître et de l'aimer. Nous n'aurions pas pu par nous-mêmes connaître ou imaginer la Sainte Trinité ou la Sainte Eucharistie. C'est des choses qui nous dépassent infiniment. On ne peut pas se donner à soi-même la foi. Mais c'est même vrai dans l'ordre naturel. Penser droitement dans l'ordre naturel, connaître la vérité et être fidèle en tout à la vérité, même la vérité naturelle, et a fortiori le faire, faire le bien naturel, toujours et en tout, c'est hors de notre portée, à cause du péché originel. On est tous de pauvres pécheurs et on a besoin de la grâce, même quand il s'agit de connaître toute la vérité naturelle et de faire tout le bien naturel. Alors c'est vrai, nous pouvons connaître quelques vérités naturelles, nous pouvons faire quelques biens naturels, mais quelques seulement, pas tout, et pas toujours. On a besoin de la grâce du bon Dieu, donc il faut la lui demander, et c'est ce qu'on fait dans cette oraison. Alors qu'est-ce qu'on demande exactement ici ? Spiritum cogitandi semper quae recta sunt et agendi. On demande quae recta sunt, ce qui est droit. Il faut penser ce qui est droit et il faut le faire. Ce qui est droit, qu'est-ce que ça veut dire ? On peut plus ou moins dire que c'est synonyme de ce qui est juste, ce qui est saint. C'est une expression qui revient très souvent dans la Sainte Écriture. La droiture, ce qui est droit, la Sainte Écriture le dit très souvent. Par exemple, dans le Livre des Rois, le Livre des Chroniques, qui raconte toute l'histoire des rois de Juda et des rois d'Israël. Eh bien, à chaque fois, l'auteur sacré, inspiré par le bon Dieu, précise pour chacun de ces rois, chacun de ces personnages, si vraiment ils ont marché dans les voies de Dieu et s'ils ont fait ce qui est droit à ses yeux ou pas. C'est le critère. Les bons rois, ceux que Dieu aime, ceux que Dieu bénit, comme David, Josaphat, Josias, ce sont ceux qui ont fait ce qui est droit aux yeux de Dieu. En revanche, les mauvais rois, c'est ceux qui n'ont pas fait ce qui est droit aux yeux de Dieu, qui ont mal agi, notamment qui ont pratiqué l'idolâtrie ou qui l'ont laissé pratiquer alors qu'ils étaient des chefs et qu'ils auraient dû l'empêcher. De même, dans Job, le livre de Job, dès la première page, dès la première ligne, on nous dit que Job était un homme intègre, droit, craignant Dieu, éloigné du mal. Vous voyez comme cet éloge est beau, la droiture, c'est quelque chose qui plaît au bon Dieu, ça. Dans les psaumes très souvent emploient cette expression, ce qui est droit. Dieu conduit le juste par des voies droites. Souvent les psaumes répètent ça. Ou encore les psaumes parlent de ceux qui ont le cœur droit pour les opposer à ceux qui ont le cœur tortueux. Alors il faut donc penser et faire ce qui est droit. Il faut le penser d'abord, parce que la pensée précède toujours l'action. On est des hommes, donc on a une intelligence. Et notre intelligence, c'est la première de nos facultés. C'est donc d'abord dans notre esprit que se trouve la vérité, se trouve ce qui est droit. La droiture, elle est d'abord à ce niveau-là, au niveau de l'intelligence, ou plus largement, on peut dire du cœur, de l'intention. Et c'est ça que Dieu nous demande. Et c'est très important aujourd'hui, parce qu'on vit dans un monde où le relativisme est partout. On ne croit plus à la vérité. Chacun pense un peu ce qu'il veut. On nous parle beaucoup de tolérance. Il faut accepter toutes les erreurs. L'erreur a autant de droits que la vérité. On est tous contaminés plus ou moins par le libéralisme ambiant. Notre esprit est faussé, tordu. Notre esprit est contaminé par le monde qui nous entoure. C'est pour ça qu'on a besoin de demander au bon Dieu de penser ce qui est droit, de rectifier notre esprit pour que ce soit vraiment la vérité qui règne en nous et la vérité entière, intégrale, que nous n'ayons pas un esprit de mensonge, un esprit d'erreur, un esprit tortueux. Alors, dans l'ordre surnaturel, évidemment, la fidélité à la vérité catholique, à la foi, mais même dans l'ordre naturel, parce que ça n'est pas deux mondes hétérogènes, la surnature et la nature. Tout ça, c'est lié, c'est la même création du bon Dieu. Et puis, il faut le faire. Il ne suffit pas de le penser, il faut le faire. Il faut que la pratique de notre vie soit en accord. Vous connaissez le fameux adage d'Ernest Hello. À force de ne pas vivre comme on pense, on finit par penser comme on vit. Si on ne vit pas en conformité avec sa pensée, eh bien la pensée elle-même finit par dérailler, ça dérape. Donc il faut faire ce qui est droit. Comme le dit l'évangile de Saint Jean, c'est dans l'entretien de notre Seigneur avec Nicodème. « Qui facit veritatem venit ad lucem » Il faut faire la vérité. Celui qui fait la vérité vient à la lumière. Alors comprenons-nous, faire la vérité, ça ne veut pas dire que la vérité se fait et se défait un petit peu comme ça, ad libitum, comme on dit, hein, selon ce que chacun veut. La vérité, elle est immuable, elle ne change pas, elle est ce qu'elle est, ça ne dépend pas de nous. Mais il faut la pratiquer, c'est ça que ça veut dire, faire la vérité. Il faut que cette vérité ne soit pas simplement quelque chose qui soit dans notre cœur ou dans notre esprit, mais on n'en tient pas compte, on agit différemment, ça serait tout à fait hypocrite. En d'autres termes, il ne faut pas boiter. Ça aussi, c'est une expression qu'on trouve dans la Sainte Écriture, souvent. le bon Dieu reproche aux hommes de boiter trop souvent. Ils veulent aimer le bon Dieu, ils ne veulent pas l'abandonner, ils ne veulent pas le trahir, mais en même temps, ils veulent aussi avoir un petit pied dans le monde, pouvoir jouir et bénéficier de tous les avantages du monde. Alors, ils sont partagés. C'est un compromis continuel. Dieu ne veut pas ça. Il veut qu'on soit tout entier à lui, notre intelligence, notre volonté et notre pratique. Il y a un petit mot dont nous n'avons rien dit, qui se trouve au début de cette phrase. « Spiritum cogitandi semper quae recta sunt et agendi ». Spiritum. Pourquoi est-ce qu'il est dit que ce qu'on demande, c'est l'esprit, l'intention de penser toujours ce qui est droit et de le faire? Qu'est-ce que c'est ce spiritum? Ben, ça nous montre que ce que nous disons là, le fait de penser droit, d'agir droitement, c'est un esprit, c'est un état d'esprit. Il ne faut pas que ce soit quelques actes isolés. On peut comprendre aussi que c'est un don spécial du Saint-Esprit. C'est quelque chose qui ne nous est pas donné à nous selon notre nature humaine ou nos forces humaines. Toujours penser, toujours agir avec droiture, c'est quelque chose qui nécessite l'intervention du bon Dieu, du Saint-Esprit. Et c'est un état d'esprit, c'est quelque chose qui doit vraiment, en quelque sorte, nous obséder, si on veut. Alors il faut s'examiner, il faut faire un bon examen de conscience sur la rectitude de notre pensée, de notre intention, de notre volonté, de notre cœur, de notre action. Est-ce que vraiment nous sommes droits? Est-ce que nous agissons droitement? Est-ce que nous ne sommes pas plus ou moins boiteux, hypocrites? Il y a un petit livre que vous connaissez peut-être, le Petit Placide. En fait, c'est un petit livre d'images. C'est une sœur, une religieuse bénédictine qui avait un bon coup de crayon. Elle a voulu illustrer par des images, par des dessins, un certain nombre de pensées pieuses, de méditations. Et elle a fait ce petit livre, le Petit Placide. On peut trouver que les dessins sont un petit peu frustes, sont peut-être pas très beaux, peu importe. Ce qui compte, c'est le contenu. Et alors, dans ces petits dessins, il y en a un qui est tout à fait intéressant et qui est très profond. Donc, Placide, c'est un moine. Le nom est emprunté à Saint Placide, un des disciples de Saint Benoît. Donc, c'est un petit moine qui est dans son monastère bénédictin. Il va trouver son père abbé et puis il demande au père abbé de suspendre au plafond de sa cellule un fil à plomb. Et une idée un peu saugrenue. Mais c'est très profond. Alors voici ce qu'il dit. « Révérentissime Père », il s'adresse à son père abbé, « permettez-moi de suspendre un fil à plomb au plafond de notre cellule, s'il vous plaît. Pourquoi, mon fils? Pour avoir toujours sous les yeux l'image de la ligne droite qui doit être l'ossature de mon âme et la route entre mon âme et Dieu. » C'est très profond. Et alors il continue, et ça c'est nous. Et cette ligne verticale tend à décliner à l'oblique et à tourner au tire-bouchon. Il y a de l'humour en plus. Mais c'est souvent comme ça pour nous. Au lieu de marcher droit, de penser droit, nous obliquons. Ou même ça devient un tire-bouchon. Alors demandons au bon Dieu qu'il nous apprenne à penser droit et à agir droitement. Et puis enfin, la dernière phrase de notre petite oraison, c'est le but. La raison pour laquelle on demande ça, afin que nous qui ne pouvons exister sans vous, vous c'est le bon Dieu, nous vivions selon vous. Quelques mots, c'est très résumé, c'est très dense, mais c'est très profond. Effectivement, nous ne pouvons pas exister sans Dieu. Sans Dieu, si Dieu cessait de nous faire être, nous retournerions au néant, aussitôt. Nous sommes entièrement dépendants de Dieu. Tout comme le fœtus dans le sein de sa maman. Il dépend tout entier de sa mère. Il ne peut pas vivre sans elle. Alors, on constate ça, et il faut en être persuadé. Nous aurions tendance à croire que ce que nous sommes, ça vient de nous. Nous sommes des gens bien. Nous nous approprions notre propre existence. Nous oublions que tout ce que nous le sommes parce que Dieu veut bien que nous le soyons. Alors, si on a bien compris ça, nous comprenons aussi que de la même manière que nous ne pouvons être que par Dieu, que parce que Dieu le veut bien, nous devons vivre aussi selon Dieu. Il faut être logique, conséquent avec soi-même. Et le latin, même là, est plus profond, précise. Le latin ne dit pas que nous vivions pour que nous vivions selon vous, mais pour valeamus vivere, pour que nous puissions vivre, pour que nous ayons à cœur de vivre, que nous soyons capables, que nous soyons assez forts. Valeo, hein, c'est le fait d'être fort, puissant en latin, pour que nous soyons assez forts, assez capables de vivre selon Dieu, selon la volonté de Dieu. Ça aussi, c'est une grâce que Dieu donne. On ne peut pas, par nous-mêmes, vivre selon la volonté de Dieu, faire le bon plaisir de Dieu, la volonté du bon Dieu, si Dieu ne nous donne la grâce pour le faire. Alors voilà le but. C'est pour ça qu'on a demandé de penser droit et d'agir droitement, pour vraiment que toute notre vie soit tout entière selon la volonté de Dieu, selon ce qui plaît à Dieu. C'est un beau programme, c'est magnifique. C'est tout l'idéal de la vie chrétienne. La vraie sagesse chrétienne, elle est là. Vous voyez, comme une petite oraison de rien du tout, et riche, belle. Et c'est vrai de toutes les oraisons du missel. On pourrait, ce qu'on a dit là, en quelques mots, le répéter, le refaire pour toutes les oraisons du missel. Nous avons des trésors. On a la plus belle religion du monde. Et malheureusement, on ne la connaît pas. Alors demandons au bon Dieu cette sagesse de toujours penser et agir avec droiture, de ne jamais faire que ce qui plaît à Dieu, et de bien comprendre que c'est une grâce, un don gratuit de Dieu, qu'il faut le demander dans la prière, que c'est quelque chose qui ne dépend pas de nous, mais du bon Dieu, et que le bon Dieu veut nous le donner, mais pour qu'il nous le donne, il veut qu'on le lui demande. Sa bienveillance à notre égard réclame que nous prions le bon Dieu, que nous lui demandions. On pourrait faire une objection, et je termine là-dessus. L'évangile que nous venons de lire, bah, il semble encourager au contraire une manière d'agir habile, mais malhonnête. Cet intendant, il vole son patron pour s'en sortir la tête haute et puis garder un certain nombre d'avantages. Il se conduit comme un malfrat, un brigand. Il est infidèle. Alors est-ce que c'est ça ce que l'évangile nous encourage? Il y aurait une contradiction entre l'oraison et l'évangile. Pas du tout. L'évangile nous encourage non pas à être malhonnête, mais à rivaliser de prudence et d'habileté avec les enfants du siècle, non pas pour faire comme eux le mauvais usage des richesses de la terre, mais pour gagner le ciel, pour accumuler des richesses célestes. C'est l'habileté que Jésus loue. C'est pas la malhonnêteté, c'est la prudence. Et souvent, les fils de lumière manquent de prudence. Ils ne savent pas goûter toutes les richesses que le bon Dieu veut leur donner. Alors, utilisons bien les richesses de la terre pour gagner le ciel. C'est ça le sens de cet évangile. Mais il n'a jamais été dit qu'il faut être malhonnête. Demandons tout ça par notre Seigneur Jésus-Christ, puisque toutes ces oraisons du missel nous font prier « Per Dominum Nostrum Iesum Christum », le juste par excellence. Et puis demandons-le aussi par Notre-Dame. S'il est quelqu'un qui, en effet, a été d'une rectitude parfaite, c'est bien la Vierge Marie. Dans la Vierge Marie, on trouve une parfaite rectitude de la pensée et du vouloir. Elle n'a jamais dévié de sa trajectoire. C'est évident, elle est l'Immaculée Conception. Alors il faut lui demander, elle est une mère, elle peut justement nous donner cet amour de la prière, ce sens de ce qu'il nous faut demander à Dieu, la manière de le demander, la persévérance pour le demander, la foi. Que Notre-Dame nous donne tout ça, c'est ce que nous lui demanderons à l'occasion de cette messe. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.